Les carnets du soir, avec l'abbé Denis Veilleux.
Les carnets du soir vous proposent de me suivre comme pèlerin dans différents lieux à Rome, la ville éternelle. Je vous livre différentes pensées et réflexions. Suivez-moi dans cette réalité.
Oui, je suis à Rome pour le moment. La semaine dernière, j'étais à Paris pour réaliser ces entrevues. Je reviens sur les entrevues parce que c'est 2 par jour, pendant 5 jours. Vous voyez, je rencontre en moyenne 10 de personnes pendant 1 heure et plus, et les émissions Un temps pour parler se segmentent en 30 minutes. On ne demande pas, on ne propose pas à un auditoire d'écouter pendant 1 heure d'affilée ce type d'émission. Donc, elles sont segmentées en 30 minutes. Et il y a des imprévus. Comment arrivent les imprévus? Les imprévus, dans ce cas-ci, c'est que quelqu'un s'est présenté là où nous séjournons et c'est une personne avec qui nous avons lié la conversation. Et là, on se dit, ah, il me semble que nous devrions proposer une entrevue à cette personne-là, parce qu'elle passe et elle ne repassera pas. Donc là, on s'arrête, on réfléchit et on plonge. C'est un véritable plongeon. Donc la semaine est passée, nous étions du côté de Paris, et là, nous avons quitté Paris pour venir à Rome. Je ne vous parlerai pas du voyage, qui est quand même relativement simple, où on quitte Paris pour Rome, mais on arrive dans une autre cité. Paris, c'est Paris, c'est unique. Les villes sont uniques, elles sont comme des personnes. Quand on les a apprivoisées, on les connaît. On sait comment ça fonctionne. Là, on arrive à Rome. Je connais aussi Rome. Alors, je dois m'adapter, non seulement au climat, à la vie de la ville de Rome, à son rythme, il y a un rythme dans chaque ville, et à sa personnalité. Rome, vous savez, c'est Rome. Il n'y a pas que le Colisée, le Forum, les antiquités, les basiliques partout, mais il y a aussi Saint-Pierre, et c'est aussi le pape qui est à Rome. Donc tout cela fait partie de la composante d'une ville. Donc, nous sommes arrivés hier à Rome, dans l'humidité, parce que là, tout de suite, on se rend compte qu'il y a une différence entre Paris et Rome, qui est plus au sud, évidemment, en Europe. Et là, l'humidité prend le dessus, on a eu quelques gouttes de pluie, et lors de l'arrivée, il y a une personne que nous connaissons, qui a demandé à nous rencontrer. Donc, ce fut extrêmement sympathique. Nous demeurons à Saint-Louis-des-Français. Saint-Louis-des-Français fait partie de ce qu'on appelle les pieux établissements à Rome, qui sont des entités françaises. Je vous donne un exemple. La Trinité des Monts, qui est située dans la ville de Rome, que j'ai vue ce matin, par exemple, eh bien, c'est territoire français. Ça appartient aux Français. Et ce sont souvent des communautés françaises qui se relaient pour demeurer et assurer le service spirituel de ces lieux. Ici, à Saint-Louis-des-Français, c'est un endroit où je viens, quand je viens à Rome, je séjourne ici pour la plupart du temps. J'ai connu 3 recteurs, le premier, le deuxième et le troisième, le dernier, que je ne connaissais pas, puisque la pandémie a fait en sorte qu'il y a une parenthèse d'au moins 3 ans qui ne m'a pas permis de venir à Rome. Alors, celui qui est là actuellement, je l'ai rencontré hier soir à l'arrivée, fort gentil, très accueillant. Nous avons été Nous avons été très, 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 très bien reçus. Donc, nous sommes dans un endroit qui nous convient. Je tiens à le dire, les maisons religieuses sont importantes pour moi.
Voici maintenant les épistolaires. Il s'agit de 17 parchemins de Bernardo di Perugia à son ami Béic, dit la fleur. Vous serez au XIIIe siècle en Italie. Vous aurez compris que ce sont des personnages fictifs que j'ai inventés et dont je suis l'auteur. Fascinant. Prise de son, Yannick Caron. Musique et bruitage, François Couture. Bien cher Béic, dit la fleur. Vous dire comment je me sens mal, et bien. Et de votre côté, tout va bien? Poursuivant ma route de mendiant dans cet interminable retour à pied de Rome, je me suis arrêté chez une famille dont les membres m'ont semblé tout de suite suspects. Plusieurs générations se côtoient. Mais il y a comme un non-dit qui me préoccupe. On n'arrive pas à savoir qui est la mère de qui, l'enfant de qui, et le père de qui, et même le frère ou la sœur de qui. Il nous faut monter à l'étage des générations âgées pour réduire notre questionnement. Là, on peut distinguer tel ou tel aïeul. Comprenez-vous qu'on n'y prononce jamais le mot « père » ou même les mots « papa » ou « maman » ? Même les plus jeunes ne les appellent jamais ainsi, en parlant bien sûr des grands-parents. Savez-vous comment ils se prénomment ? Tâche, brûlot, fraise, coquelicot pour une jeune fille, raisin, olive, un peu plus humain, et ainsi de suite. Et ils s'y reconnaissent tous. Ahurissant, vous dis-je. Pourquoi je me sens mal? À cause d'un échange entre ces personnes concernant un aïeul très âgé, aveugle et qui ne se déplace plus. Comme on m'avait placé dans une cabane de joncs et que j'étais en quelque sorte adossé à leur cabane de paille, j'entendais tout ce qu'ils disaient. Il fut question de cesser toute alimentation, quelle qu'elle soit, à leur aïeul. C'était la mort assurée. J'étais au plus mal. C'est ce qu'ils firent. Je décidai alors, foi de Bernardo di Perugia, de contrecarrer leur infâme projet. Je n'avais rien. De plus, ils avaient installé, telle une proie surveillée, leur aïeul au centre des activités. Afin, me semble-t-il, de voir le dépérissement graduel de leur aîné. Le mal a de ses idées. Comme j'étais leur hôte mendiant, que je n'avais rien et que je recevais tous deux, je décidai de prendre à leur insu la moitié du morceau de pain quotidien que l'on me donnait et je le faufilais dans la manche de ma chemise. Manche que j'aurais volontiers relevée, tant il faisait chaud. Bien pour le pain. Mais pour donner un peu d'eau au vieillard, je trouvai l'astuce de me proposer à chercher l'eau à une source que j'avais repérée avec eux. Ce qu'ils apprécièrent au plus haut point, car c'était une tâche fastidieuse. On partait léger et on revenait courbé par le poids. Imaginez ces 4 jarres à anse remplies. Chaque jour, à heure fixe, au plus chaud du jour, alors qu'ils étaient tous endormis dans leur cabane, je sortais pour donner la moitié de mon pain au vieillard. Pour l'eau, chaque fois que je revenais de la source, je feignais l'immense fatigue en m'arrêtant près de l'infortuné pour, avec mes mains, le faire boire. Quant à eux tous, tâches, fraises, olives, que j'aurais souhaité plus humains, ils demeurèrent inflexibles, guettant l'heure du trépas. Il n'y eut que Coquelicot, qui venait pleurer en cachette derrière un vieil olivier. Jamais on ne s'aperçut de mon geste. Le vieillard mourut au moment où je lui donnais un peu d'eau. Je récitai le Pater Noster et un Ave Maria. Et m'en fus me cacher dans ma cabane de gens pour pleurer. C'est alors que je sentis un rafraîchissement inédit. Il faisait chaud, si humide. C'est Coquelicot qui alerta les autres de la mort de l'aïeul. Eh bien, on l'a mis en pénitence 3 jours et elle fut exclue de la mise en terre du vieillard dont on brûla la cabane. Je suis bien maintenant. Le rafraîchissement me rappela les mots de notre Seigneur sur un verre d'eau fraîche donné en son nom. Je remerciai mes hôtes de leur hospitalité, trop longue à mon goût. Eux l'apprécièrent pour l'allègement de la charge des jarres, et moi, pour avoir donné un peu de pain et d'eau à celui qu'on avait condamné à leur mauvais dessein. Oui, cette fois-ci, rapportez tout ce que je vous écris, et avec détail, à votre chère cousine à San Damiano. Je suis sûr que les dames pauvres prieront pour ces gens, pour le trépassé comme pour les autres, et tout particulièrement pour Coquelicot. Nous ne sommes pas seulement en cellule à San Damiano, mais aussi dans toutes ces cabanes abjectes qui pullulent dans le monde. Priez pour moi. Bernardo di Perugia.
Thank you.
C'était les Carnets du soir avec Denis Veilleux qui vous parle. Réalisation technique, Yannick Caron.